Badania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Botar, benvindo no cruzamento da Europa. Vous l'avez compris, bienvenue à Lisbonne, la capitale du Portugal qui est devenue en quelques années une destination incontournable. Les touristes qui s'y pressent viennent y chercher la magie d'une ville qui a réussi à conserver pour le moment son âme. Une aubaine pour relancer l'économie, mais qui ne fait pas que des heureux. Il y a un risque de voir Lisbonne se transformer en une ville uniquement réservée pour les touristes et où les habitants n'auraient pas leur place. Mais au-delà de la beauté de la cité aux sept collines bordées par le Tage, ce qui fait le charme de Lisbonne, c'est aussi et peut-être d'abord les Lisboètes qui, malgré la pression touristique, restent prévenants, souriants, toujours prêts à partager un moment, une émotion. Enfin, Lisbonne est la capitale d'un pays qui a pris avec succès le contre-pied de la doctrine économique et sociale prônée par la Commission européenne et un pays qui, malgré les difficultés passées, reste résolument européen. Nous avons posé nos micros dans un lieu emblématique de Lisbonne, le musée du Fado. Le Fado, c'est bien sûr ce chant poétique qui exprime si bien l'âme portugaise. Je vous présente les invités qui ont pris place sur la scène du petit théâtre du musée du Fado. Bonjour, Botar, Joana Gomes Cardoso.
Bonjour.
Vous êtes la présidente des GEAC. Alors, on va pas dire ce que c'est que les GEAC, mais on va retenir que c'est en gros tout ce qui s'intéresse, qui s'occupe de la culture à Lisbonne.
Oui.
On est d'accord.
De la ville de Lisbonne.
Inés de Medeiros, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venue en voisine car vous n'êtes pas vraiment lisboète, vous êtes vous avez été actrice, réalisatrice, députée et aujourd'hui maire d'Almada. Autant dire une multitude de vies en une seule, hein, on peut dire ça aussi.
Oui, mais moi je suis absolument lisboète. En ce moment, je suis aussi d'Almada, qui est juste la ville en face de Lisbonne, de l'autre côté du Tage.
Vous avez traversé le Tage.
J'ai traversé
pour travailler, vous allez traverser le Tage chaque jour. Alors, évidemment, on va parler du Tage, on va parler un peu d'Almada, beaucoup de Lisbonne, un peu d'Almada. Almada,
j'espère,
c'est évidemment le grand Lisbonne, comme il y a un grand Paris dans la capitale française.
C'est même plus près que Saint-Denis pour les Parisiens.
C'est l'avenir de Lisbonne, Almada.
Absolument. C'est comme Brooklyn, New York et Brooklyn.
Sergio Tréfaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste et documentariste, cinéaste de fiction. Vous avez été souvent inspiré par le thème des migrations. Alors c'est vrai que le Portugal a longtemps été un pays d'émigration avant de devenir aujourd'hui un pays d'immigration. Un documentaire, par exemple, Lisboetas, c'est en quelques mots une histoire d'immigration, d'intégration.
C'est un film qui a été tourné il y a près de 15 ans. Au moment où le Portugal changeait définitivement, mais d'une façon différente de ce qui se passe en ce moment, car en tant que pays d'où les gens partaient, il est devenu un pays, et surtout Lisbonne, où les gens arrivaient et s'installaient, et tout d'un coup, les Lisboètes se sont vus entourés de beaucoup plus de langues, avec 7 ou 8 journaux en langue russe qui se publiaient, avec des radios en différentes langues, avec des Africains qui s'habillaient à l'africaine et pas comme les Angolais ou les Mozambicains ou qui s'habillaient en européen. Il y a eu tout un changement de la ville qui a surpris les Portugais. Les Portugais eux-mêmes ont découvert une nouvelle ville à partir de cette période.
Alors, Lisboetas, c'est un documentaire, mais vous avez aussi tourné une fiction qui s'appelle Viajem em Portugal, le voyage au Portugal. Antonio Costa Pinto, bonjour, Botard.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Institut des sciences sociales à l'Université de Lisbonne, de la sociologie et de l'économie, en quelque sorte.
Oui, plutôt de la science politique, je dirais. Je travaille surtout sur la démocratie portugaise et sur le passé autoritaire.
Et puis nous avons le plaisir d'accueillir Carlos do Carmo, je dirais le fadiste, avec un grand F majuscule. Tout à l'heure on m'a dit, ah tu vas recevoir Carlos do Carmo dans ton émission. On m'a dit, mais c'est comme si tu étais en Égypte, tu recevrais Oum Kalsoum. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire quand même, vous êtes aujourd'hui
exagéré.
Voilà, c'est la modestie. On est dans la modestie portugaise dès le premier jeu, dès le premier mot.
Tellement grand, j'ai 1m74 d'abord. Et ensuite chanter.
Alors 1m74, mais plus de 50 ans de carrière tout de même.
55.
Et est-ce que vous jouez encore? Est-ce que vous chantez encore?
Oui, de temps en temps. Une fois par mois.
Alors, Joana Gomes Cardoso, si vous deviez expliquer votre ville en quelques mots à quelqu'un qui n'aurait jamais foulé les pavés de Lisbonne, vous commenceriez par quoi?
En quelques mots, c'est difficile, mais je dirais quand même, par un thème qu'on a déjà un petit peu abordé, cette complexité, en fait, ce mélange de gens. Donc, on a parfois l'idée du Portugal ancien, plutôt vieux et plutôt homogénique. Et en fait, Lisbonne en particulier, c'est une ville extrêmement mélangée avec beaucoup de cultures différentes, de beaucoup d'origines qui sont lisboètes et qui convivent dans la ville dans différentes façons. On a aussi tous les gens qui n'habitent pas forcément à Lisbonne mais qui passent à Lisbonne. Donc c'est une ville où l'ancien vit avec tout ce qui est aussi les réalités d'aujourd'hui. Et justement dans une période où on parle beaucoup de touristification et de identité, j'ai toujours un petit peu je pense qu'on doit ne pas se perdre dans le débat sur ce qui est authentique, parce que la Lisbonne d'aujourd'hui authentique et pas forcément l'image traditionnelle qu'on a en tête.
Et puis l'authenticité se construit de jour en jour.
Tout à fait.
Serge Trefaut, quelle serait votre Lisbonne ?
Ma Lisbonne. J'ai du mal à répondre. Je viens de tourner là pendant 4 jours. Quelques séquences pour une émission spéciale d'Arte qui s'appellera 24 heures Europe, et je suivais le personnage de Lisbonne, et ils ont choisi, c'était pas mon choix, quelque chose qui a rapport au tourisme, qui était une tuk-tuk driver,
Les tuk-tuk sont des petits scooters qui permettent d'emmener un certain nombre de touristes.
Oui, et là, moi et mon équipe, on a eu, je m'excuse, un sentiment de dépression et de tristesse terrible, parce que ce sentiment de vente permanent de ces jeunes gens qui ont pour profession d'entraîner des touristes, et ce discours qui est fait sur la ville et qui est un discours, les discours sont toujours très fictionnels, mais qui est très pauvre et c'est très triste parfois. La façon dont ce tourisme est arrivé et la façon dont ce tourisme occupe l'espace d'une ville que, personnellement, j'aimais énormément.
Que vous n'aimez plus, j'ose pas le croire.
Pas de la même façon, certainement.
Carlos de Carmo, est-ce que votre Lisbonne, c'est d'abord l'Alfama, qui est le cœur du fado ici à Lisbonne? Il y a aussi le Barreiro Alto, qui est l'autre quartier.
Non, pas exactement, non. Ma Lisbonne est une Lisbonne qui a une âme, et l'âme, elle est absolument, à mon avis, elle est absolument dans le cœur des vieux quartiers. Et il a raison.
Ce qu'il vient de dire,
il a très raison. Parce que je vais dans mon barrio, par exemple, qui s'appelle Pica, où je suis né et où j'ai vécu, et je ne me reconnais plus là-dedans. J'ai vécu là jusqu'à mon mariage, et je ne me reconnais plus. Et pourquoi je ne me reconnais plus? Parce que les gens qui habitaient, d'habitude, ils avaient l'habitude de passer les maisons, ses enfants, ses petits-enfants, etc. Ça avait une continuation. Et c'était l'âme de Lisbonne, donc d'une certaine façon, ça faisait une tradition. J'ai rien contre. Une tradition, c'est une tradition. Si vous avez une âme, c'est normal que vous ayez une tradition. Cette âme se perd. Ici, Alfama, vous la perdez. Il y a les Français qui sont arrivés, ont tout acheté.
Alors, Alfama, un petit mot. C'est une des collines de Lisbonne. C'était un quartier extrêmement populaire, notamment pendant les fêtes de Lisbonne. C'est en ce moment, c'est au mois de juin, notamment le jour de la Saint-Antoine, où tous les habitants de Lisbonne descendaient dans la rue, faisaient rire des sardines, chantaient dans cette atmosphère. C'est en train de se perdre. Évidemment, la pression touristique fait que toutes ces petites maisons se sont transformées petit à petit, peut-être pas tous, il doit en rester quelques-unes, en Airbnb, c'est-à-dire en maison pour les touristes.
D'accord, mais on écoute plutôt le français, j'ai rien contre, hein. J'aime bien la langue de Molière. Mais ma question est différente, c'est que ils sont bienvenus, les Français. Mais les Portugais sont aussi bienvenus, ceux qui étaient là. Et la question, c'est une question économique, purement. Il a tout dit, d'une façon... vous savez, quand on est metteur en scène, on est réalisateur, on n'a pas besoin de, comme moi, de dire des mots et des mots et des mots. Je suis un chanteur. C'est comme ça. Mais la question est que j'espère et je souhaite, je suis toujours un homme d'espoir, je souhaite que les Français se maintiennent là, mais que les Portugais ne soient pas chassés pour les, vous savez, le faubourg. Non, j'espère. Je le souhaite.
Antonio Costa Pinto. Alors, c'est vrai qu'on avait l'habitude de dire que Paris était la deuxième ville portugaise de France. Là, on pourrait presque dire que Lisbonne est la huitième, neuvième ou dixième ville de France. Car c'est vrai que l'invasion touristique, elle est réelle. C'est particulièrement le vrai du fait des Français qui envahissent la ville. On entend très souvent dans certains quartiers de la ville, pas seulement les Français, mais il arrive qu'on entende davantage le français dans certaines rues de la ville que le portugais. Alors c'est vrai que c'est une ville qui a énormément changé au cours de ces 15 dernières années, qui a renoué un peu avec une certaine forme de modernité. Il y a 20 ans, 30 ans, Lisbonne, c'était une ville, une capitale peut-être un peu poussiéreuse, un peu provinciale, triste, mais peut-être délicieuse.
Triste et provinciale, à mon avis. Je suis un peu plus optimiste que Carlos Carmo. J'ai toujours habité le centre de Lisbonne, dans le quartier de Estrela, tout près du très fameux tramway 28, n'est-ce pas? Et à mon avis, le centre historique a beaucoup changé, mais il faut dire que les classes moyennes et les classes moyennes hautes avaient déjà abandonné un peu le centre historique, qui était d'ailleurs dans un état pas exactement très brillant. Et il faut dire que cette dynamique, pas seulement du tourisme, parce que on parle du tourisme, bon, du touriste typique qui est là deux jours, trois jours, mais non, on a des Italiens, des Français, même des Américains, etc., qui habitent à Lisbonne, et donc Lisbonne est devenue une ville plus cosmopolite, beaucoup plus cosmopolite qu'elle était il y a une vingtaine d'années.
Inès Gemero, je prends le pari que vous allez me dire que pour découvrir Lisbonne, il faut prendre le bateau, les Cacilhas, ils naviguent en permanence sur le fleuve, qui est très large, hein, au moins un estuaire de 2 km de large à peu près. Il faut prendre le bateau, traverser le Tage et venir chez vous à Almada pour bien voir Lisbonne. Quand on est à Almada, c'est le seul moment, le seul endroit où on peut voir Lisbonne dans son intégralité.
Oui, bien que moi je suis ici un peu dans une double qualité. D'un côté, moi j'ai grandi à Bairro Alto, qui est quand même le centre cœur du Lisbonne typique, du Lisbonne du fado, des journaux, des marins, des prostituées, enfin tout ce côté authentique. Et il faut bien le dire, ça fait très longtemps que malheureusement mon quartier était en forte décadence. Et donc j'ai un rôle, je suis dans une position un peu délicate, parce que j'espère que ce renouveau vienne redonner une âme à un quartier qui malheureusement l'avait perdu il y a longtemps. D'un autre côté, oui, c'est vrai, si vous voulez voir le Lisbonne authentique qui est chassé, on ne peut jamais dire que les gens sont chassés de chez eux pour de bonnes raisons, mais c'est vrai que beaucoup de population d'Alfama, ce quartier dont on parle, s'est installée à Almada, à Cacilhas, de l'autre côté du Tage. Et d'ailleurs, on dit que c'est Alfama à Almada, voilà. C'est vraiment juste en face. Donc, oui, en effet, Almada est en train d'accueillir beaucoup de gens, pas seulement les gens des quartiers populaires, mais aussi beaucoup de jeunes gens dont les prix, parce que le problème de cet essor économique et de cet essor du tourisme, il faut bien le dire, on est tous contents que ça arrive, mais ça a été tellement vite que les prix de l'immobilier ont augmenté de façon vertigineuse et les Lisboètes ne peuvent plus suivre. Donc, oui, ils viennent dans les villes alentours, notamment Almada, qui est de centre à centre, qui est la ville la plus proche, quoi. Elle a juste un fleuve qui les sépare.
Est-ce qu'il y a un risque que Lisbonne soit victime du syndrome de la barcelonisation, c'est-à-dire une ville faite pour les touristes et un peu moins pour les habitants de la ville?
Ben, j'espère pas. Mais parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on va donner à partager? enfin, si on prend le principe que le tourisme, c'est aussi du partage, ça veut dire que les gens viennent nous voir et on leur montre des choses dans le sens, on partage notre culture, notre façon de vivre, nos traditions, mais aussi nos espoirs de futur. S'il n'y a plus de Portugais, s'il n'y a plus que des maisons vides à louer pour une semaine, bon, il n'y aura pas grand-chose à louer. Et ça, c'est le drame des villes qui ont beaucoup de tourisme. Et je pense que, heureusement, tout le monde a la conscience qu'il faut savoir doser pour ne pas vider et ne pas tuer des parties entières de la ville.
Ce que les touristes aiment à Lisbonne, c'est d'abord, évidemment, ce sont d'abord les quartiers de l'Alfama, du Barreiro, de la Baixa, qui concentrent une bonne part de l'activité touristique et où se faufile le fameux tramway 28 qu'évoquait Antonio Costa Pinto. Mais il y a quelque part un quartier très révélateur de l'évolution de la ville. Je me suis laissé guider par Hilda Portela qui m'a emmené dans un quartier ultramoderne qui s'appelle...
Ça s'appelle le Parc des Nations. Et c'est en fait la zone qui est restée après l'exposition universelle de 1998 et qu'ils ont transformée en une zone très vivante et pas du tout comme à Séville par exemple, qui est devenue déserte.
Après l'exposition de 1992.
Exactement.
Est-ce qu'on peut dire que c'est la transition entre la Lisbonne du XXe siècle et celle du XXIe ?
Je pense que oui, tout est moderne, il n'y a aucune trace, aucune référence du passé, une ruine, une église, non, tout est moderne, le design, les symboles, les logotypes, tout le mobilier urbain. On s'est un peu familiarisé avec les interventions urbaines de grands artistes portugais et internationaux. Et tout est vraiment neuf. La gare, les banques, les hôtels, le casino. C'est un quartier, avec un vrai quartier, un arrondissement de Lisbonne, avec une vraie démarcation administrative. Lisbonne est divisée par Flexir, ça correspond aux arrondissements parisiens, par exemple. Et le quartier de l'Expo est devenu une Flexir de Lisbonne.
Jona Gomes Cardoso, les Lisboètes aiment bien ce quartier, le Parc des Nations, qui est l'ancien quartier où s'est déroulé l'Expo de 98, c'était il y a tout juste 20 ans.
Tout juste 20 ans, effectivement. Pour moi, il y a une Lisbonne, comme j'ai dit au tout début, beaucoup plus enlargie de la traditionnelle, même si la traditionnelle est effectivement, ça je ne vais pas le contester, l'âme de la ville, mais il y a des autres quartiers dont les touristes ne connaissent pas, heureusement peut-être, et qui ne vont pas, en tout cas encore, qui sont formidables, et en fait, où beaucoup, du point de vue culturel, c'est où beaucoup de l'énergie créative en ce moment opère. Donc pour moi, c'est un peu réducteur de juste parler de Lisbonne. Pensons aux quartiers populaires.
Par exemple, un quartier comme Marvilla, par exemple.
Marvilla, Biatch, Brege, l'Expo, l'Olivage. On a l'Olivage. Juste petite histoire, on a fait un concert Carmina Burana avec la Fondation Gulbenkian à Val do Silêncio, nos Olivages. Je ne sais pas si tous connaissent, beaucoup de Lisboètes ne savent pas où c'est à côté de l'aéroport. Et même à l'EGEAC, il y a une résistance énorme. Les gens disaient, mais on va tout voler, personne va venir. Et c'était un succès fou. On n'a jamais pensé que tellement de gens viendraient. Donc, c'est preuve que les Lisboètes sont très prédisposés en ce moment de, effectivement, connaître des autres parties de la ville et de leur donner la même importance. Il n'y a pas une Lisbonne plus centrale, moins centrale. En tout cas, c'est ce que je défends.
Carrefour de l'Europe à Lisbonne. Nous allons faire une courte pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. On se retrouve dans 3 minutes, très exactement. À tout de suite.
Europei. Rozkrucia Europei.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours à Lisbonne, au musée du Fado. Lisbonne, la capitale européenne aux charmes multiples, plébiscitée par les touristes, mais qui, face à la pression touristique, risque de perdre quelque peu son âme. Dans la première partie, on a beaucoup parlé de Lisbonne. On va se consacrer maintenant un peu aux Lisboètes, aux Portugais et au Portugal dans l'Europe. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints sur la petite scène du théâtre du musée du Fado. Joana Gomes Cardoso, elle est la présidente de GIAC, qui s'occupe de la culture à Lisbonne au sens large du terme. Inès de actrice, réalisatrice, députée et aujourd'hui maire d'Almada. C'est la grande commune de l'autre côté du Tage, qu'on voit d'ailleurs de Lisbonne. Sergio Trefo, il est cinéaste, il est un cinéaste documentaire et de fiction. Antonio Costa Pinto est professeur à l'Institut de Sciences Sociales à l'Université de Lisbonne. Et avec nous, Carlos do Carmo, le plus grand des fadistes portugais. Alors il y a un lieu, il y a un lieu, Carlos do Carmo, qui me paraît emblématique à Lisbonne, mais plus généralement au Portugal, ce sont les pâtisseries, les pastelaria. Alors des pâtisseries, il y en a absolument partout dans le monde. On y vend des gâteaux, on peut y manger des gâteaux. Parfois, c'est un salon de thé en France ou au Royaume-Uni. À Lisbonne, il y en a une de tous les 50 mètres à peu près. Alors on y vend des gâteaux, mais pas seulement. On y croise des étudiants, des ouvriers, des vieilles dames qui se retrouvent tous les jours à la même heure pour papoter. Un lieu en tout cas où toutes les classes sociales et toutes les générations se retrouvent. Est-ce que les pastelaria, Sergio Trefo, sont une partie de l'art de vivre des Portugais?
Il y a quelque chose qui se passe dans ce que vous appelez les pastelarias, qui est de l'ordre de l'économie. C'est que au Portugal, il est très habituel que les gens déjeunent dans les petits cafés et ils déjeunent pour des prix très modestes. Et donc, c'est des endroits qui rentrent dans l'économie très modeste d'une ville où l'économie est très modeste.
Inès de Medeiros, vous allez dans les pastelarias le matin prendre un café avec un rissol ou un pastel bacalhau, peut-être un umabola, peut-être un guardanap, que sais-je.
Je ne pratique pas encore la morue le matin.
Non, pas la matinée.
Non, oui, mais évidemment, c'est aussi des lieux de vie. Et c'est vrai que c'est une tradition. Et quand on va, comme j'ai habité quelques années hors du Portugal, j'ai beaucoup regretté les pastelerias, ce café où on boit du café, où on peut manger du pain, des gâteaux, mais aussi à l'heure du déjeuner, un steak, un fruit, un dessert. Oui, on trouve tout un peu à manger dans une pastelaria.
Et qui sont des lieux très intergénérationnels. On y voit des jeunes, des personnes très âgées, Antonio Costa Pinto.
Des touristes aussi.
Des touristes aussi, évidemment, ils sont partout.
Surtout à cause du pastel nata. Mais c'est vrai que pour donner cet exemple des pastelerias, en fait, le tourisme a provoqué une nouvelle dynamique des pastelerias à Lisbonne. Parce qu'il y avait pas mal de pastelerias qui étaient en train de disparaître, par exemple, n'est-ce pas? Enfin, je suis peut-être l'optimiste de service au niveau du
centre historique. Sur les pastelerias, je partage.
Toute une dynamique de vie dans le centre historique de Lisbonne qui est revenue. Grâce, je crois, au tourisme. Parce que j'insiste, c'est pas seulement l'épiphénomène du touriste qui est là 2-3 jours. Non, pas mal de touristes, entre guillemets, des étrangers sont venus habiter Lisbonne, n'est-ce pas? Et donc, c'est pas seulement une question de pastelerie, c'est aussi cette dynamique d'une ville qui est devenue plus cosmopolite. Et ça, je crois, c'est très intéressant parce que ça veut dire l'effet de cette dynamique plus cosmopolite de Lisbonne aide aussi, je crois, l'image du Portugal. Il y a deux choses que je voulais souligner qui ont à voir un peu avec la politique. C'est vrai que l'effet de mode de Lisbonne a aussi à voir avec, je crois, deux autres aspects qui sont très importants. D'abord, il ne faut pas oublier que le Portugal, au niveau de ce qu'on appelle en général la paix, est le numéro 6 du monde. Ça veut dire, c'est une société c'est en même temps une démocratie, parce que c'est un régime politique démocratique, qui connaît pas la violence politique, qui connaît pas une radicalisation très importante, n'est-ce pas? C'est une démocratie qui ne connaît pas, par exemple, l'essor de cette dynamique populiste une belle partie, en fait, de l'Europe et du monde. Et par hasard, c'est vrai, c'est une démocratie qui a un gouvernement de gauche, un gouvernement de gauche qui, au fond, essaie de pratiquer une espèce de refondation d'une social-démocratie qui a pratiquement disparu en Europe.
Alors, mais vous entamez un peu le troisième thème de l'émission. Mais
c'est le troisième thème. Pardon. Mais je crois que cette image du Portugal, c'est une image assez positive. Et d'ailleurs, par exemple, au niveau des États-Unis, j'ai passé un semestre à New York l'année dernière. Mais en général, les Américains, le Portugal, c'est où? Et ça a changé. L'image du Portugal et des Portugais a changé récemment, si j'ose dire. Et le Portugal est aujourd'hui connu d'une façon assez positive par l'opinion publique.
On va évidemment y revenir. Mais je voudrais revenir un instant quand même sur, non pas les pâtisseries, quoique le nombre de pâtisseries que l'on trouve à Lisbonne fait quand même, Joana Gomes de Cardoso, le fait qu'il y a très peu de fast-food. McDonald's bat en retraite au Portugal, peut-être à cause du nombre de pâtisseries. Vous n'avez aucun avis sur le sujet?
Je pratique les pâtisseries, mais je ne sais pas.
Vous êtes pratiquante
et pratiquante. Pratiquante des pâtisseries et des biquets, c'est les petits cafés qu'on boit le matin. Par contre, comme on a dit déjà, d'un côté on sent il y a une valorisation peut-être. Après, il y a les grandes chaînes aussi qui ont pris le dessus et il y a peut-être là aussi ce que j'appelle l'authenticité forcée. C'est pas du tout l'authentique, c'est une image d'une authenticité qui est complètement fabriquée. On le voit dans d'autres villes aussi.
En discutant avec plein de Portugais en préparant cette émission, il y a un thème qui est revenu souvent, c'est la nourriture. Et à l'évidence, la nourriture, c'est très important dans la vie des Portugais. En tout cas, c'est ce que m'a confirmé João Pedro Ruivo. Il est cinéaste de son état.
La nourriture est absolument centrale dans la vie du Portugais. Ma théorie, c'est que tout revient à la bouffe pour le Portugal. La saudade, la nostalgie, le fado, tout absolument se retrouve avec un point commun qui est déclenché par la nourriture, même plus que l'océan, la mer, le voyage, non. C'est l'évocation d'une dame bacalhau, l'évocation d'une sardine, l'évocation d'un cousido à l'endroit ou d'une pomme de terre frite d'une façon spéciale dans une huile spéciale, d'un gâteau, d'un flan, d'une mousse, d'un truc comme ça. Le portugais, d'un vin maison, le grand-père avait fait. C'est là où le portugais se retrouve, c'est là où explose la nostalgie, la saudade, la convivialité, la générosité, l'amitié, la sympathie des portugais. La boue.
Carlos do Carmo, je vous ai vu sourire en écoutant, en entendant João Pedro Ruivo.
Je suis pas d'accord, totalement. D'abord, je vous dirais qu'en ce qui concerne la pastelerie, je ne connais pas parce que je ne me lève pas avant midi. Alors.
Mais elles sont ouvertes jusqu'à 20h. Moi, je pratique l'après-midi. Donc.
Mais l'après-midi, je commence à travailler. Alors, j'ai pas le temps. Je mange.
Pâtisserie, c'est pas mon genre. Mais je respecte la vie de chacun. Il y a des gens qui se lèvent à 7h du matin, les pauvres, mais enfin, c'est la vie. En ce qui concerne le Portugal, j'ai écouté le maître, il parlait de politique. Et c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis très intéressé en politique. Ça m'intéresse beaucoup. Et je dois dire que le Portugal est un très vieux pays qui a une histoire extraordinaire au point de vue... Je parle du Portugal dans Portugal. Vous avez eu tout ici. Les Juifs, les Arabes, vous avez eu tout, tout. Donc on est une mescle de tout ça. Un mélange. J'ai pas peur du tourisme, pas du tout. C'est important économiquement, etc., etc. Mais, vous savez, c'est un changement brusque. En plus, les jeunes gens gagnent très peu, des très petits salaires, les plus petits salaires de l'Europe à 28. Et en plus, les vieux ont des pensions misérables. la plupart. Alors, comment vous voulez que ces gens habitent Lisbonne s'ils n'ont pas les moyens? Et arrive un Français qui a de l'argent et dit, moi, décidément, j'ai peur d'habiter à Paris parce qu'il y a les bombes, il y a le terrorisme, il y a ci, il y a ça, et moi, je vais habiter Lisbonne. D'accord. Bienvenue. Très bienvenue. Les gens de civilisation sont très bienvenus. Mais où vont les Portugais? Où vont les vieux? Comment un jeune trouve une place à habiter? Et ça, politiquement, franchement, c'est une préoccupation.
Inès Numéro, je m'adresse à vous. Quelque part, vous avez été interpellé. Vous avez été député, vous êtes aujourd'hui maire d'Almada, donc une grande ville, troisième, quatrième ville du Portugal.
Non, cinquième.
Cinquième. En tout cas, une grande ville. Et vous êtes député socialiste quelque part. Carlos de Carmo vous a interpellé. Est-ce qu'il y a une réponse, peut-être plusieurs, aux interrogations effectivement qu'a évoqué Carlos de Carmo? Effectivement, les salaires sont bas, bien qu'ils aient été augmentés récemment par le gouvernement d'Antonio Costa. Il est de plus en plus difficile de se loger à Lisbonne. Et effectivement, une population peut en chasser une autre.
Évidemment, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de solution miracle. Mais il y a des petits gestes qui, à mon avis, il faut le faire. Une des questions qui est importante et qui a provoqué beaucoup de dégâts, c'est en effet la loi sur les loyers. Ça veut dire qu'on avait une loi sur les loyers qui était assez progressif et qui respectait un certain nombre de droits, et maintenant qui s'est extrêmement libéralisée. Donc, et qui, d'une certaine façon, la loi sur les loyers plus le syndrome Airbnb a, d'une certaine façon, tué le marché locatif. Donc, on a à nouveau un grand boom immobilier et aussi des mesures comme les visas gold où les gens
alors, les visas gold,
arrivent.
Ça s'explique assez simplement. Si vous êtes SDF en Afrique, vous prenez tant bien que mal un bateau et vous espérez être récupéré au milieu de la Méditerranée par l'Aquarius. Si vous êtes vous avez un grand chèque en banque, vous venez au Portugal et vous dites je voudrais mais pas uniquement le Portugal, ça marche aussi pour Malte et plein d'autres pays. Et vous dites voilà, je vous fais un chèque pour l'Espagne, je vous fais un chèque, j'achète un appartement de 500 000 euros et là soudain je vais avoir un visa et je vais pouvoir circuler dans la zone Schengen au minimum pendant 5 ans.
Mais même le visa gold, moi j'ai des doutes sur le principe. En effet, qu'on puisse acheter une carte de séjour, ça me provoque idéologiquement, ça me cause quelques difficultés. Mais ceci dit, c'est vrai que ça a été important à un moment de grande crise où on avait tout le secteur immobilier en faillite. Donc, il faut aussi savoir le reconnaître. Et il faut savoir le reconnaître que si c'était pas tout d'un coup cet apport d'argent, bon, la crise aurait été encore plus dure. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé qu'on a attiré des investisseurs, souvent qui n'habitaient pas. Maintenant, peut-être que les maisons vont être habitées, qui investissaient et qui ont fait monter les prix. Alors, la location est morte et le prix à l'achat a augmenté énormément. Et évidemment, les salaires, même s'ils augmentent un peu, ne peuvent pas accompagner des augmentations à 30% à l'année. Donc, ce n'est pas... je comprends la préoccupation que tout le monde parle ici, et même je suis... Enfin, je ne veux pas parler pour eux, même Johanna ou Antonio. Je crois que, oui, c'est positif d'avoir du tourisme. Oui, c'est très positif, de mon point de vue, que Lisbonne devienne très cosmopolite, Lisbonne et toutes les villes autour. Mais il faut savoir regarder avec fermeté et conscience les effets moins bénéfiques de cette évolution si rapide.
C'est très tard. C'est très tard. J'habite depuis 25 ans dans l'Alfama, au cœur de l'Alfama. Quand je me sortais de chez moi il y a 20 ans, il y a 10 ans encore, je rencontrais sur le coin de la rue deux vieilles femmes ou trois vieilles femmes habillées en noir en discutant sur laquelle d'entre elles avait un mari qui était plus malade, lequel prenait plus de médicaments, et c'était la conversation habituelle. Aujourd'hui, j'habite à Disneyland. C'est très simple. Si j'habite à Disneyland. Les cafés, les pâtisseries ou les cafés, c'est quelque chose de très semblable au Portugal. C'était une institution importante parce que on y mangeait très, très, très bon marché. C'est simple. Aujourd'hui, le café qui est au coin de ma rue s'appelle Copenhagen Lab. Et le coût du petit déjeuner, c'est 10 euros, exclut le café qui coûte 2 euros. Au Portugal, un café coûte 60 centimes. Donc c'est ça le coût du tourisme. Et c'est ça le coût que les gens s'en vont. Il y a un changement. Vous avez parlé de peut-être ça va s'approcher de Barcelone. Non, c'est bien plus grave qu'à Barcelone parce que ça se concentre sur une surface où les choses...
Oui, c'est l'équivalent de quelques arrondissements parisiens. C'est petit, la superficie.
C'est plus grave.
Antonio Costapin.
Il faut faire attention parce que en fait, on est en Europe. Une Europe.
Et l'Europe est dans la mondialisation.
Et donc, c'est compliqué, mais c'est vrai, oui, nous on a des Visa Gold, oui, mais les entreprises portugaises les plus importantes siègent en Hollande. Et oui, en Irlande, les taxes, etc. Oui, et le retraité de Finlande, par exemple, la Finlande est préoccupée parce que les retraités finlandais viennent au Portugal, n'est-ce pas ? Et avec des conditions spéciales, etc. Mais ça, c'est un peu l'Europe, quand même, quand on regarde Florence, Rome, et l'effet, par exemple, du tourisme, etc. Où est le centre historique de Florence, du point de vue des Florentins? Moi, j'ai habité 4 ans à Florence, n'est-ce pas? Le centre est peuplé de touristes, c'est vrai. Une partie des Florentins sont partis en banlieue.
Mais c'est merveilleux.
Mais c'est merveilleux, oui. Voilà. Donc, je suis peut-être l'optimiste de service, mais ça, vraiment, c'est l'européisation de l'Europe.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, nous sommes à Lisbonne, au musée du Fado, avec Joana Gomes Cardoso, présidente de l'EGIAC, avec Inés de Medeiros, avec Sergio Trefo, avec Antonio Costa Pinto et avec Carlos do Carmo. Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, alors qu'on a déjà parlé 40 minutes du Portugal, de Lisbonne et des Portugais, c'est le mot saudade. Ça n'existe plus, la saudade, chez les Portugais, depuis qu'on est dans la mondialisation, depuis qu'on est dans les tuk-tuk, depuis qu'on est dans les pâtisseries à 2 euros le café. Sergio Trefo, ça n'existe plus la saudade, Carlos do Carmo.
5 millions qui habitent hors du Portugal ont...
Eux, ils l'ont, la saudade.
Saudade en permanence.
Alors, un mot quand même sur la saudade. Qui veut définir pour un public francophone ce que c'est que la saudade? Qui se lance?
Ah, il n'y a pas grand monde. L'odeur de son pays. L'odeur de son pays.
Ouais. La Madeleine.
Alors, j'y vais chanter et il y a quelqu'un qui me dit « Vous m'apportez l'odeur de ma terre, où j'habite ». Mon village, mon petit village, vous m'apportez cette odeur. Comment vais-je vous expliquer ça? C'est lui qui le dit.
Il faut laisser un peu de mystère, de toute façon.
C'est très beau. C'est très beau.
Joana Gomes Cardoso, est-ce que cette notion de saudade qui est aussi liée à l'époque, une nostalgie, l'époque où le Portugal découvrait le monde au 15e et 16e siècle, est-ce que, alors, qui est la définition un peu classique, hein, évidemment, après, il y a eu
très contestée
avec la grande dépression d'un pays, de tout un peuple, est-ce que l'adhésion à l'Union européenne à partir de 1986 est évidemment un changement, évidemment des niveaux de vie plus élevés, le fait que le pays qui regardait l'Atlantique s'est mis à regarder l'Espagne et derrière l'Espagne le reste de l'Europe, est-ce que ça a changé peut-être un peu ou pas cette notion de saudade? Est-ce que la saudade est en voie de disparition? Qui veut rebondir?
Bon, sur la saudade, je pense que Carlos l'a déjà définie. En tout cas, moi, je ne suis pas capable de faire une meilleure définition. Par contre, ce que je trouve intéressant, justement, sur notre position en Europe, si on veut, bon, 2-3 choses. Une, ce que j'essayais de dire au début, la ville de Lisbonne, effectivement, et Sergio l'a très bien retraité dans ses films, est une ville où vivent des Chinois, des personnes d'origine africaine, de la communauté indienne, et Lisbonne est faite de toute cette communauté. Donc, de nouveau, quand on pense au cliché de la ville, en fait, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et En ce moment, il y a aussi tout un débat en cours sur comment traiter cette histoire dont le Portugal est connu par le monde entier d'une certaine façon, mais peut-être le Portugal lui-même n'a pas encore fait ce processus de parler des thèmes comme le colonialisme, l'esclavage. C'est des thèmes dont maintenant on commence à arriver à en parler parce que il y a toute une génération d'afro-descendants et des gens d'autres communautés qui commence à provoquer ce débat. Et en même temps, par rapport à d'autres villes en Europe, où on sait qu'il y a des questions, des tensions par rapport aussi à ces thèmes et d'autres plus contemporains, à Lisbonne, on vit encore dans une certaine sentiment de convivialité où on peut discuter ces thèmes et on peut cohabiter et coexister. Ayant, nous aussi, ces questions qu'on doit absolument, bien sûr, résoudre pour que les nouvelles générations aussi se sentent légitimes.
S'ajouterait-il, vous avez envie de réagir?
Non, c'est que c'est pas une question seulement de la ville, c'est une question du pays en entier. C'est un pays où il n'existe pas de parti d'extrême droite au Parlement. C'est un pays où la haine à peu de place évidente, sans vouloir rentrer dans une édulcoration du portrait du Portugal, où tout existe comme partout ailleurs, mais c'est en rapport à toute la situation nationale.
Quand on se promène dans les rues de Lisbonne, il y a quand même une sensation de douceur que l'on ressent.
Si j'ose dire, c'est un pays avec une identité nationale tranquille. Ça veut dire on n'a pas des clivages nord-sud, on n'a pas des clivages linguistiques, on n'a pas... Vous voyez, par rapport à notre voisin l'Espagne, n'est-ce pas? Par exemple, on est... Jusqu'aux années 60, on était même d'une monotonie absolument... d'une monotonie triste. Oui, c'était le Portugal des années 60. C'était un pays monotone, triste.
Un peu noir et
gris. Qui était d'ailleurs en guerre coloniale. Mais ça, c'est une autre question. Tout ça a changé un peu, mais pas cette identité nationale tranquille, je crois, par rapport à d'autres pays.
Inès de Medeiros.
Oui, je crois qu'il y a des choses très importantes qui ont été dites. Carlos en parlait, tout le passé, enfin, même la genèse de ce pays. Le Portugal a toujours été, en effet, un port d'arrivée et un port de départ. Et d'un autre côté, je voudrais aussi revenir sur ce côté de cette identité tranquille. C'est pas la force tranquille, c'est l'identité tranquille. Parce qu'en effet, on ne sait pas très bien ce qui fait notre union depuis si longtemps, cette unification du territoire. Mais on sait qu'elle est là. Donc, en effet, on ne s'interroge pas beaucoup là-dessus. Et finalement... je pense que les réactions qu'on a ici, c'est que, aussi comme ça a été dit, le changement a été très brutal, très rapide. Alors, d'un côté, c'est extrêmement positif. Il faut se dire qu'il y a 5 ans, on était au pire de la crise. Au pire de la crise. Donc, où les gens avaient vraiment leur salaire coupé.
Bien des Portugais ont immigré.
Voilà. Ouais. Avec un taux d'immigration incroyable. Cette année, à nouveau, pour la première fois, il y a plus de gens qui rentrent que de gens qui partent, ce qui est quand même extrêmement important. On se lamentait justement de toute notre, tous nos jeunes, cette génération la plus qualifiée de Portugais, de toute notre histoire, qui partait en masse. Enfin, donc, on a tous des sentiments partagés. D'un côté, on ne peut que se réjouir de revoir un peu le pays prendre
renaître.
Du souffle et renaître un peu de ces années. Mais aussi, ça renaît très vite, ça vient très très vite. Donc, on n'est pas préparé. On ne peut pas laisser tout d'un coup les Portugais à la marge de ce boom économique, sinon on retombe dans les mêmes logiques d'il y a 5 ans.
Antonio Cochetapinou, d'un mot, on a longtemps dit en Europe que les Portugais qui ont adhéré à l'Union Européenne en 1986 ont été longtemps les bons élèves du Portugal, c'est-à-dire finalement peut-être très dociles, je ne sais pas, vous nous direz. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce gouvernement original qui a un certain nombre de succès, est-ce qu'ils sont en train de devenir les meilleurs élèves de l'Europe? Ça va être le mot de la fin.
Oui et non. Je dirais que cette solution dans le gouvernement de gauche, en fait, qui suivent une politique assez européiste, et le résultat d'une conjoncture très positive sur le point de vue de la croissance économique, sur le point de vue de la capacité de ce gouvernement de faire une certaine redistribution et de repenser un peu l'option social-démocrate en Europe. C'est difficile, mais c'est vrai que pendant les derniers 2-3 ans, le gouvernement portugais a été un facteur de, je dirais, de curiosité dans une Europe très bouleversée par l'extrémisme et par le populisme.
Merci, merci à tous les cinq.
Non, moi, j'ai pas voté.
Merci à tous les cinq d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Merci aux équipes du Musée du Fado et de l'EGIAC, réalisation Nicolas Benita. Pour écouter cette émission, l'appli RFI Pure Radio ou le site RFI.fr. On reste en contact via Facebook et Twitter. Dans quelques minutes, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Daniel Escalou, que vous soyez à Lisbonne, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine, mais tout de suite, on se quitte avec quelques notes d'une guitare portugaise et d'une viola portugaise avec Wilson Frazon et Ricardo Caixado. Merci, à bientôt, au revoir.